Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à cette conférence sur le thème d'aujourd'hui, la généalogie. Merci à l'UTB de m'accueillir, merci à son président. Vous avez eu beaucoup de courage de venir par le temps qu'il fait. Alors, la généalogie, ben vous savez, c'est la recherche des ancêtres. C'est... Dites-nous. Vous entendez mal? On continue alors. Alors, c'est la recherche des ancêtres, donc, en simplifiant beaucoup. Hein. Bon, c'est un loisir qui connaît un certain succès, qui est assez à la mode actuellement. C'est aussi une collection, la généalogie, c'est une collection. Certains vont collectionner les timbres, les monnaies, les capsules de bouteilles de champagne. La généalogie, c'est collectionner des noms. Hein. On collectionne ses ancêtres. Donc, c'est très prenant. Comme tout collectionneur, on cherche toujours à développer sa collection. On cherche toujours à avoir des noms nouveaux. Quand on tombe dans la généalogie, en général, on y va jusqu'au bout, totalement. Hein. C'est un bon moyen pour entretenir sa mémoire aussi. La généalogie, c'est exactement la même démarche qu'une enquête policière. On part d'indices et à partir de là, on construit un raisonnement pour trouver les coupables. Les coupables, nos ancêtres qui nous ont donné la vie. Hein, voilà, hein. C'est un moyen aussi d'enrichir ses connaissances. Une personne m'a dit un jour, j'ai plus appris en faisant de la généalogie qu'à l'école. Et je crois que c'est assez vrai. Hein. La généalogie touche à tous les domaines. Tout le monde peut trouver quelque chose d'intéressant à la généalogie. Alors, on travaille sur les morts, c'est vrai, mais ça concerne tous les aspects de la vie. Hein, les métiers, les mesures, le droit, l'art, pourquoi pas, même les langues, ça peut vous amener à étudier les langues parce que la plupart d'entre nous, nous avons des ancêtres qui viennent de l'extérieur. Alors ça nous amène à faire du latin, par exemple, quelque part latin, parce que dans certaines régions, en général près des frontières, les actes sont rédigés en latin pour être compris par les personnes de l'autre côté de la frontière. La généalogie aussi, c'est une activité très conviviale. On ne peut pas faire une généalogie complète seul. On a toujours besoin de l'aide d'autres personnes. C'est immense, la généalogie. On verra, on a des milliards d'ancêtres. Hein. Alors, bien sûr, on ne va pas tous les trouver, hein, les identifier, mais ces ancêtres viennent un petit peu de tous les horizons. Hein. Rares sont les personnes qui ont une ascendance locale seulement dans le département. Alors, en ce qui me concerne, entre moi et mon épouse, je cherche à peu près dans un quart des départements français. 24, 25 départements français dans 6 pays. Alors bon, j'ai peut-être un cas un petit peu extrême, mais je ne suis pas le seul, hein, il ne faut pas croire. Hein. Donc, il faut énormément de temps et faire une généalogie un peu développée, on n'y arrive pas, hein, ce n'est pas possible. Et c'est sans fin une généalogie, hein. Vous allez passer toute votre vie, vous avez encore des choses à découvrir. Hein. Alors, un peu rapidement, je vous ai dit que la généalogie, c'était la recherche des ancêtres. Ah, avant, tiens, je vais me présenter quand même, très rapidement. Hein. Je ne suis qu'un généalogiste amateur. Je ne fais que de la généalogie de loisir. Mais à côté, vous avez des généalogistes professionnels. Et on trouve deux types de généalogistes professionnels aujourd'hui. Les plus anciens étaient les généalogistes successoraux, sont les généalogistes successoraux. C'est-à-dire qu'ils travaillent en collaboration avec les notaires pour trouver les héritiers d'une personne aisée et on ne connaît pas les descendants. On a besoin de connaître les héritiers pour liquider la succession. Alors il y a des professionnels qui font ce travail de recherche des descendants de la personne. En général, ces généalogistes successoraux ont droit à une partie de la succession. Donc, ils vont s'intéresser, évidemment, aux successions où il y a de l'argent, hein, évidemment. Mais il y a des successions qui sont comme ça à régler, qui existent depuis plusieurs siècles. J'entendais l'année dernière, il y a une succession qui est ouverte depuis, je crois, à peu près 400 ans, d'une personne très riche, elle n'est toujours pas liquidée. Et je crois que, comment il s'appelle, notre François Fillon aide un des héritiers. Hein? Alors maintenant, vous voyez, le temps passant, l'héritage va être sûrement découpé, tellement découpé, je ne sais pas si un jour, il n'en verra le bout. Alors ça, c'est une catégorie donc de professionnels, hein, généalogistes successoraux. Et depuis une trentaine d'années, 40 ans au plus, sont apparus d'autres professionnels. Des personnes qui font le même travail que moi, mais pour autrui, et qui se font payer à l'acte. Alors, si vous voulez faire votre généalogie, vous ne savez pas faire, il faut vous déplacer, eh bien, vous pouvez vous adresser à ce type de généalogiste qui va faire des recherches pour vous et qui vous demandera une petite participation. En général, ce n'est pas très cher. Hein. Parce que la généalogie, ça coûte quand même relativement cher. Hein. Comme vous avez votre famille sur place, ça va bien. Vous allez à Mâcon, aux archives départementales, par exemple. Hein. Mais quand vous avez de la famille, une partie en Alsace, une autre partie à Brest, etc., vous avez beaucoup de déplacements à faire, beaucoup de nuits d'hôtel, et puis on ne sait pas toujours bien faire. Si on prépare mal son travail, on perd beaucoup de temps, donc on a parfois tout intérêt à s'adresser à un professionnel. Tout intérêt financièrement. Une généalogie faite par un autre, ça n'a quand même pas le même impact. Hein. Il m'est arrivé de recevoir, moi, de la part de collègues généalogistes, une centaine de noms de rentrer comme ça à la maison avec 100 noms nouveaux. Bon, j'étais très content, évidemment, mais ces gens-là, je ne les connais pas très bien. Hein. L'intérêt, c'est aussi d'aller sur le terrain, manipuler les actes anciens. On s'imprègne bien de notre famille. Hein. Alors bon, on va entrer dans le vif du sujet après cette parenthèse, la recherche généalogique. Alors la généalogie, je vous ai dit hâtivement, c'est la recherche des ancêtres. C'est un des aspects de la généalogie. On commence par là, il faut chercher ses ancêtres, évidemment. Mais c'est aussi, pour d'autres, la recherche des cousins. C'est-à-dire, vous partez d'un ancêtre qui vivait il y a 100 ans, 200 ans ou plus loin, pourquoi pas, ou d'un couple, et vous cherchez tous les enfants qui sont nés de ce couple. Alors là, l'éventail est encore plus large qu'en généalogie ascendante. Chercher ses ancêtres, c'est la généalogie ascendante. Chercher ses cousins, c'est la généalogie descendante. Et bien souvent, la tâche est tellement immense, on se contente de chercher les porteurs du nom. Ça devient très compliqué si on part sur les femmes aussi, parce que les femmes, évidemment, elles changent de nom et elles sont plus difficiles à suivre. Hein. Mais c'est déjà énorme. Hein. Voilà donc le plan que je vous propose. Deux grandes parties. À gauche, la recherche généalogique avec les divisions généalogie ascendante, généalogie descendante et puis une parenthèse sur les outils nouveaux. Aujourd'hui, depuis 10 ans, 15 ans, la recherche généalogique a changé. Et puis dans une deuxième partie, j'ai appelé ça science connexe et science annexe. En effet, la généalogie, c'est une science, mais à cette science, on trouve d'autres sciences qui sont complètement imbriquées en généalogie. On verra, on aborde beaucoup, beaucoup de domaines, je vous l'ai déjà dit. Hein. Puis il y a des sciences qui sont un petit peu en marge, comme la psychogénéalogie. J'en dirai quelques mots, ce n'est pas exactement mon domaine. Alors, donc on va parler de la généalogie ascendante. On recherche ses grands-parents, ses parents on les connaît, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents, etc. Et je vous présente déjà un tableau qui va vous donner peut-être le tournis, un tableau que j'ai intitulé Tableau des... C'est le pointeur. Et j'appuie...
C'est le bouton rouge.
Le bouton rouge. Alors, j'ai noté plusieurs colonnes. Tout à gauche, on le voit, ça ? Non ? Alors, oui, oui. J'ai noté une colonne, vous voyez, c'est...
Non, mais le pointeur, vous ne l'avez pas. Là, comme ça.
Ah, il faut, rester appuyé. Il faut rester appuyé.
Oui, oui. Voilà.
Vous voyez ? Oui, ça y est, je le vois. Donc, dans la colonne, tout à gauche, vous avez les générations que j'ai numérotées. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai noté dans la colonne immédiatement à droite, bon, il faut que je cherche mon... voilà. immédiatement à droite, des années de naissance. Alors je suis parti d'une personne qui est née, allez, aujourd'hui, disons, 2010, pour avoir une année facile. Alors cette personne qui naît en 2010, et dont je vais faire la généalogie, on lui donne un nom, c'est le Decujus, on dit aussi le probant. Probant, ça vient de preuve. Alors pourquoi ce terme de probant qui peut paraître un peu bizarre? C'est parce que autrefois, la généalogie, c'était le domaine de la noblesse. Les gens comme nous ne faisaient pas notre généalogie, ils s'intéressaient à personne. Hein. Par contre, les nobles, eux, étaient intéressés par la généalogie, puisque les nobles avaient des privilèges, et en particulier le privilège de ne pas payer certains impôts, notamment la taille. Alors le roi, évidemment, demandait des preuves de leur noblesse. Il ne suffisait pas de dire « je suis noble, je ne paye pas la taille », il fallait encore en apporter la preuve. Hein. D'où le terme de probant pour la personne dont on fait la généalogie. Alors, dans la troisième colonne, j'ai noté le nombre de parents au niveau de la génération. Par exemple, mon Decujus qui naît en 2010, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis entre chaque génération 30 ans, ce qui est absolument arbitraire. Hein. Il y a des personnes, en ce qui me concerne, j'ai fait le calcul, j'ai établi ce tableau, c'est de l'ordre de 27 ans et demi, mais ça peut être beaucoup moins. J'ai rencontré une personne qui avait 15 ans et qui avait une grand-mère de 45 ans. Grand-mère, ça veut dire qu'elle était grand-mère à 30 ans. Hein? Donc, vous voyez, bon, c'est quand même le cas extrême. Hein? Alors, j'ai pris 30 ans, bon, ça fait un nombre rond. Donc, ce Decujus, qui naît en 2010, on est en 1980, hein, 30 ans plus tôt, cette personne a deux parents. Et dans la colonne suivante, eh bien, donc, ça lui fait, je cumule les parents, ça fait deux aïeux. Hein. Alors, aïeul, attention, hein, à deux pluriels. Soit on met un S, soit c'est écrit A-I-E-U-X. Quand c'est A-I-E-U-X, aïeux, ça veut dire ancêtre. Quand c'est aïeul, c'est grand-parent. Ça n'a pas le même sens. Hein. Et puis, j'ai noté quelques repères, disons, historiques. Hein. La personne qui naît en 2010, c'est Nicolas Sarkozy qui est président. Nous sommes en 1980, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Je remonte, troisième génération, nous sommes en 1920. Non, je vais trop vite. 1950, donc ça fait quatre aïeuls, quatre grands-parents pour cette personne. Je cumule six aïeux, les deux parents plus les quatre grands-parents, six aïeux. Là, c'est six, c'est Auriol. Je continue. Alors, troisième génération, 1920. 8 bisaïeuls, 8 arrière-grands-parents, plus les 4 aïeuls, les 2 parents, on en est à 14. Nous sommes sous Doumergue. Quatrième génération, 1890, 16 trisaïeuls. Alors, ça doit être des arrière-arrière-grands-parents. Cumulé, 30 ancêtres. Là, nous sommes sous Perrier. Septième génération, je ne vais pas tout faire défiler, septième génération, nous sommes en 1800. Bon, c'est pas si loin, 1800 en fait, hein, quand on fait de la généalogie, c'était hier. Hein. Alors, 1800, 128 ancêtres qui sont ici en vie à cette période. Hein. Cumulé, on en est à 254, nous sommes sous Bonaparte. On continue, 1650, toute généalogie, ou quasiment tout généalogiste, peut remonter vers 1650, sauf cas très particulier, évidemment. Hein. 1650, on a 4096 à cette période, 8190 en tout, depuis le début. Alors, 1650, c'est Louis XIV. Plus loin, 1530, on est sous François Ier. J'ai pris des rois, enfin des hommes politiques, un petit peu prestigieux, un petit peu plus célèbre. 65 000 ancêtres qui veillent à cette période, 131 000 ancêtres. Je continue. Jean de Lebon, c'est, on a dit, 1350. C'est la naissance du franc, 1350. Hein. 4 millions d'ancêtres. 4 millions d'ancêtres. Ce qui fait au total, depuis le début, 8 millions. On continue. Hugues Capet. 34e génération, nous sommes, allons 1000 en gros. Hein? Ouh là là, ça devient compliqué. 17 milliards d'ancêtres qui vivent en un an mille. 34 milliards depuis le début. Et puis, bon, paraît-il, connaissant tous de Charlemagne, et quand on voit ces chiffres, on se dit, ben, c'est peut-être vrai. Charlemagne, l'an 800, 40e génération, 1099 milliards, 1 billion. En tout, plus de 2000 milliards d'ancêtres. Vous vous rendez compte? Alors, on n'est pas à Vercingétorix, hein? Vous vous rendez compte? À chaque génération, on double nos ancêtres. Nous sommes là, deux parents, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents. On arrive assez vite à des nombres astronomiques. Hein. Alors évidemment, on ne va pas trouver tous ces ancêtres. Hein. Et même peut-être vous vous posez la question, mais ce n'est pas possible. Il n'y a jamais eu 1 000 milliards d'habitants sur la Terre, ni aujourd'hui, ni du temps de Charlemagne. Ben, si, c'est quand même possible. Parce que quand on fait de la généalogie, on se rend compte que très vite, on retrouve les mêmes couples qui reviennent. On descend plusieurs fois des mêmes couples. Très vite, plus ou moins vite, mais très vite, on se rend compte que, eh bien, ma foi, on a le Paul Martin qui est marié avec la Louise machin, et puis ça, on les retrouve plusieurs fois. Ce qui fait que le nombre réel de nos ancêtres ne correspond jamais au nombre théorique. Mais ça fait rien, c'est énorme, hein. Alors, quand on voit ces nombres-là, certains disent, eh bien, ben déjà, nous sommes tous cousins. C'est fort possible, hein, c'est fort possible. En ce qui me concerne, je suis une douzaine de fois cousin avec mon épouse, et je vous dis, on cherche dans 24 ou 25 départements, hein. Et puis, je sais pas tout, hein, dans l'état actuel de mes recherches, hein. Et je vais même plus loin, puisqu'on descend plusieurs fois du même couple. Nous sommes nos propres cousins. Cousins, les cousins, ben, ce sont des parents qui descendent d'un même couple. Mais comme je descends plusieurs fois des mêmes personnes, du même couple, je suis mon propre cousin. Hein. Alors, il y a du travail. Hein, vous voyez, on peut s'occuper un moment. Alors, j'ai présenté un arbre généalogique, un peu esthétique. Hein. On part donc du probant, ici, de Cujus, on met ici son père, sa mère, les parents du père, les parents de la mère, les parents de la mère, les parents donc, les grands-parents maternels du de Cujus, etc., etc. Bon, ce type d'arbre, évidemment, on ne peut pas l'utiliser quand on fait de la généalogie. On ne peut pas noter 1000 noms ou 2000 noms sur un arbre comme ça. Hein, c'est une présentation esthétique, on se fait plaisir en présentant sous cette forme, mais quand on fait la généalogie, on ne travaille pas avec ce type d'arbre. Alors, quel type d'arbre utiliser? L'arbre généalogique, eh bien, on prend une feuille A4, 21, 29, 7, et on va diviser cette, on la tient comme ça, debout, hein, à la française ou en portrait, et on va faire quatre colonnes verticales. Quatre colonnes, donc la plus à gauche, la voilà, vous en avez la deuxième, la troisième, la quatrième. Ici, on va noter le nom du probant, des renseignements concernant le probant. Au lieu de le mettre là, on peut le mettre tout en haut ici, hein, c'est pas gênant. Là, on mettra son père, en bas, sa mère, dans la même colonne. On va diviser la partie supérieure là, en deux, comme ça. Hein. Tout ce qui est au-dessus va concerner la famille du père du probant, les grands-parents paternels, la grand-mère paternelle, le grand-père maternel, la grand-mère maternelle, et on continue de diviser, etc. Et quand la page est remplie, eh bien, on prend une nouvelle page avec le même tracé, et on repart du nom qui est là, celui-là. On va le mettre ici, et on continue. Hein, vous voyez? Alors, ça va donner, j'ai grossi ici, en détail. Voilà, bah, par exemple, Fèvre Claudine. Je marque dans son cadre, alors on n'est pas obligé de faire le cadre, hein, quand on travaille au brouillon, hein, évidemment. On peut marquer sa profession. Hein. Ce n'est pas indispensable, hein, pour avancer. On peut marquer, on marquera toujours. Hein. On ne peut pas, cette fois, c'est à peu près obligatoire. on va marquer sa date de naissance sur une première ligne, son lieu de naissance, son mariage et son décès. Et on fait la même chose pour son père, pour sa mère, etc. Alors c'est complètement inventé ça, hein, vous ne cherchez pas votre famille ici. Alors bon, je reviens en arrière. Alors ici, je vous donne quelques explications pendant que j'y suis. On va parler des abréviations. En généalogie, pour aller vite, parce que le temps passe très vite quand on fait des recherches, hein, on utilise un certain nombre d'abréviations. On en trouve quelques-unes ici. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez un petit O. Le petit O, c'est la naissance. Alors ici, j'ai né le 18-10-1851 à Avallon. Voilà comme il faut comprendre. Sur la ligne suivante, il est bien fait mon signe, là, je ne sais pas. Là, c'est le signe multiplié. Hein? Multiplié, c'est le mariage. Marié le 19-07-1885 à Champs. Alors, il s'est marié avec la personne là qui est réunie, vous voyez, par une accolade. Hein? Donc, on retrouve le même renseignement des deux côtés. Au-dessous. Alors, au-dessous, j'étais obligé de tricher, là, parce que c'est fait avec Excel. Normalement, pour le décès, donc c'est la troisième ligne, hein, sur la troisième ligne, on met la croix, le signe plus, on met la croix. Mais quand je mets une croix avec Excel, l'ordinateur cherche, c'est une formule mathématique, et ben, ça ne marche pas, hein, ça marche pas. Donc, moi, j'ai choisi un autre symbole. On peut toujours inventer des symboles, hein. Ça, c'est, je vous donne les symboles qui sont utilisés par tous, hein, en France et même à l'étranger, hein. Moi, j'ai utilisé la flèche en haut. Bon, c'est la montée au ciel, enfin, c'est ce qu'on veut. Mais si on invente des symboles, on met une légende, hein, pour se faire comprendre. Alors, on va continuer. Je vais vous présenter maintenant d'autres abréviations. Donc, j'ai noté ici le petit O de degré, par exemple, le O, tout simplement, signifie naissance ou né le. Alors, on met la date et on met le lieu. Le lieu étant encore plus important, si je puis dire, pour la recherche, que la date. La date, c'est tellement vague. Il y a 36 000 communes en France. Quand on sait le lieu, on se débrouillera, hein. Si on sait que la personne est née à Chalon, eh bien, on fera les, je sais pas moi, la vingtaine de registres de Chalon, on finira par trouver. Mais si je mets seulement la date, chercher dans 36 000 communes, on n'est pas prêt de trouver, hein. Donc, le lieu est plus important. Alors, ensuite, autre symbole, B signifie le baptême. Bon, dans l'état civil d'aujourd'hui, on parle de naissance, mais sous l'Ancien Régime, on parlait de baptême. C'était l'état civil, était tenu par les curés, et le baptême était plus important. Alors, le X, je vous dis, c'est le mariage. S'il y a plusieurs mariages, on peut se contenter du X ou mettre un X1. S'il y a un remariage, on peut mettre X2 ou XX. Un troisième mariage, X3 ou XXX, etc. Donc, la croix, c'est le décès. Et puis, on a d'autres formes d'abréviation. Par exemple, aux environs de. Alors, on peut utiliser soit comme en mathématiques, vous savez, environ. Mais les généalogistes, peut-être les choses un peu compliquées, ils utilisent les lettres CA. C'est l'abréviation de mot latin. Je dis en français, circa ou kirka, hein. Ça veut dire environ, tout simplement. Hein, bon, il faut le savoir. Hein. Alors, les dates. Avant 1700, plusieurs solutions. On note généralement, pour moi c'est le plus simple, 1700 précédé d'une barre de fraction. Après 1700, c'est 1700 et la barre de fraction suit. Et puis, on peut noter aussi, certains, comme je l'ai fait dans mon tableau précédent, je mets AV avant 1700 ou AP 1700. Ou alors c'est plus compliqué, moi ça m'embrouille, ça me fatigue beaucoup, il faut faire, c'est toute une démarche intellectuelle. Plus petit que 1700 ou plus grand que 1700. Je trouve que la barre, ça va très bien. Si vous avez un renseignement, un décès par exemple, qui vous avez trouvé qu'il aurait lieu entre 1700 et 1710, eh bien vous allez noter 1700-1710. Et puis, autres abréviations utiles. Peut-être pas vous présenter votre tableau, hein, mais quand on prend des notes pour gagner beaucoup de temps, on utilise pour désigner le père, au lieu d'écrire « père » en entier, un « p » majuscule, « mère » « m » majuscule, le parrain « p » minuscule, le petit père, hein, la marraine « m » minuscule. Testament, on va abréger par « t-e-s-t », contrat de mariage par « c-m ». archives départementales par AD, archives communales par AC, archives ecclésiastiques par AE, archives nationales par AN, etc. Hein? Voilà pour les abréviations. Alors, vous avez vu aussi dans un tableau qui précédait, hein, dans mon arbre généalogique présenté sur ma feuille 21-29-7, les noms étaient précédés d'un numéro. Alors, en généalogie, ça aussi, c'est une chose à savoir, c'est qu'on numérote nos ancêtres. Et ça, c'est très, très utile. Ça nous permet de situer nos ancêtres les uns par rapport aux autres. Et en généalogie ascendante, on utilise la numérotation Sosa Stradonitz. Je pense que j'ai dû le noter en titre précédemment. Hein, voilà, Sosa Stradonitz, ce sont deux généalogistes. Sosa était espagnol, c'est l'inventeur de ce principe, il vivait il y a plusieurs siècles. Hein. Et Stradonitz, c'est un Allemand qui l'a remis à jour, peut-être un petit peu amélioré. On associe généralement les deux noms. Alors, comment faire pour numéroter ses ancêtres? Le probant, on a dit, c'est celui dont on fait la généalogie, le de Cujus. On lui donne le numéro 1. Voilà, vous faites votre généalogie, vous donnez le numéro 1. Votre père, vous lui donnez le numéro suivant, le 2. À votre mère, c'est le numéro du père plus 1, 3. Au-dessus, le grand-père paternel. Alors, c'est 1, 2, 3. Numéro 4. On continue. 5, 6, 7, etc. Et la règle est la suivante. Le père a le numéro de la personne en question multiplié par 2. Et la mère, c'est le numéro du père plus 1. Voilà. Alors ici, par exemple, vous voyez, la mère, c'est 3. Son père, c'est 3 multiplié par 2, c'est 6. Et sa mère, plus 1, 7. Vous voyez ? Ici, j'ai le numéro 11. Je vous pose la question, numéro 11. Quel est le numéro de son père ? 11 multiplié par 2, 22. Numéro de sa mère ? 23, plus 1, d'accord? Numéro, ici, quels sont les numéros que je vais trouver? Donc, le père de la grand-mère maternelle qui porte le 7, c'est 14, 7 par 2, plus 1, 14 et 15. Donc, quand je parle du numéro 60, hein, mon ancêtre 60, ben je sais qu'il aura pour parent le 120 et le 121. Je sais que son fils, je vais à l'envers, hein, va porter le numéro, je dis fils, son enfant, je ne sais pas encore, hein, son enfant, je prends le numéro 60, je divise par 2, puisque je suis dans le sens contraire, c'est 30. L'enfant du 30, c'est 15, etc. Vous voyez, on les situe comme ça, on forme des chaînes comme ça, hein, on les situe les uns par rapport aux autres. Alors ça, c'est très, très utile. Parce que bon, quand on démarre une généalogie, on arrive à retenir tout ça. Mais quand vous commencez à avoir des centaines de noms, ça devient plus compliqué, hein. Alors, d'autre part, si vous regardez cette numérotation, vous remarquez, je prends les hommes. 4, 2, bon, là, je suis un cas particulier, je n'ai peut-être pas pris le meilleur. Ici, j'aurai le 8, hein, le 8, le 9. Les hommes, d'une façon générale, sauf le probant éventuellement, ont tous un numéro pair. Et les femmes ont toutes un numéro impair. Le 7, le 5, le 11, ça, c'est une femme, hein. Je vous parlais du 60 tout à l'heure, mon ancêtre 60, c'est un numéro pair, je sais que c'est un homme. Hein? Son enfant, numéro 30, j'ai divisé par 2, numéro pair, c'est un homme. L'enfant de ce 30, numéro 15, c'est un numéro impair, c'est une femme. Hein? Et je sais après que la femme change de nom, etc. Hein? Donc ça, c'est très, très utile à savoir et à utiliser, mais ça se fait naturellement. Alors ensuite, toujours pour continuer avec ces modalités de travail, on établit en généalogie non seulement des arbres, mais des fiches aussi. Je vous ai présenté un exemple de fiche. C'est la fiche que j'utilise, mais on peut imaginer autre chose, hein. Alors là, c'est une fiche pour chaque individu. Je note ici donc le numéro de l'ancêtre en question. Je note son nom. Je note son prénom, ses prénoms. Date de naissance, lieu de naissance. J'ai mis. Naissance. Oui, alors, naissance, d'accord, donc la date et le lieu. Décès, la date, le lieu, son père, sa mère, les noms du père et prénom, nom de la mère, prénom. Premier mariage, date, lieu, son conjoint, deuxième, troisième mariage, éventuellement, avec les veuvages. Les enfants, je mets le nom de l'enfant, son conjoint, naissance, mariage, décès. Et puis, j'ai ajouté en bas les professions diverses, ça aussi c'est intéressant à connaître, les domiciles successifs, et puis j'ai laissé de la place pour noter des renseignements divers, qui peuvent être, comme les parrains par exemple, je n'ai pas trouvé de place pour le mettre, je peux les marquer là, les témoins éventuellement, les contrats de mariage, je peux les noter ici, ou au dos, pourquoi pas, hein. Alors ça, c'est une fiche individuelle, donc ça va faire des volumes importants, on peut éventuellement l'améliorer, moi je ne sais pas ce que je fais, c'est aller utiliser le genre de fiche, là, la diviser en deux, faire deux colonnes si vous voulez, en haut, ce qui concerne l'homme à gauche par exemple, ce qui concerne la femme, les enfants sont communs, on les met au milieu, et puis les domiciles, ben, généralement c'est plus ou moins commun, en partie commun, vous voyez, donc on peut réduire par deux, diviser par deux le volume de ce fichier. Bon, voilà en ce qui concerne cette partie. Alors, j'ai oublié de vous dire, hein, on peut le dire ici, quand on fait de la généalogie, il faut surtout bien séparer la généalogie ascendante de la généalogie descendante. Donc, séparer la recherche des ancêtres de la recherche des cousins. En effet, c'est tellement immense, on ne peut pas noter tous ces renseignements dans un même arbre. On cherche les ancêtres, voilà. Si on trouve des enfants, on peut toujours les noter sur une fiche, mais c'est séparé. Hein. Il faut chercher les ancêtres. Plus tard, on cherchera les enfants, et donc les cousins. Alors, les sources en généalogie ascendante. Alors, où trouver les renseignements pour construire son arbre? Eh bien, déjà, on va utiliser ce qu'on sait. On va faire un arbre comme ça, sur notre feuille, comme je vous disais, notre feuille A4 avec les quatre colonnes. On va noter notre nom et puis on notera notre père, notre mère. On connaît souvent ses grands-parents. On note les quatre grands-parents avec date de naissance, lieu de naissance, date de mariage, lieu de mariage, date de décès, lieu de décès. Éventuellement, pourquoi pas, lieu d'inhumation. Après, certains connaissent les arrière-grands-parents. Bon, ils peuvent continuer. Si on ne sait pas, on va utiliser les éventuels documents personnels qu'on possède. On a peut-être des livrets de famille à la maison. Et bien, c'est le moment de les sortir et de compléter notre arbre généalogique. On a peut-être des faire-part. Dans les fonds de tiroir, bien souvent, on trouve encore des faire-part ou dans les greniers. On a peut-être des contrats de mariage. Des livrets militaires, voilà un certain nombre de sources qu'on va exploiter. Donc, on avance encore dans la construction de notre arbre. Étape suivante. Bon, ben, nous voilà un peu gênés, là, on ne sait plus. Eh bien, on s'adresse à la famille. Bon, on commence à être âgé, donc, quand on est jeune, on peut s'adresser aux grands-parents, aux arrière-grands-parents qui sont en vie, mais peut-être qu'on en a encore. Mais on a peut-être des oncles aussi. On les interroge. Notre famille avait des amis, c'est le moment de les interroger. On continue de compléter notre arbre. Et puis, eh ben lorsqu'on a terminé avec ça, eh ben il faut se déplacer. Il faut aller dans les mairies. Et là, on va demander à consulter l'état civil. Alors, juste une petite remarque, on ne peut pas consulter les documents de moins de 75 ans aujourd'hui. Mais bon, 75 ans, on a quasiment 75 ans, c'est pas une étape difficile à franchir. Hein. Mais bon, il faut le savoir. Hein. Donc, on ne pourra pas demander un registre de mariage de moins de 75 ans. Un registre de décès, c'est possible. Il n'y a pas de limitation pour les registres de décès. Et puis, on peut toujours écrire. Hein. On peut toujours écrire, envoyer un courrier, mettre un timbre pour la réponse. Hein, c'est le minimum. Hein. Et puis, demander à avoir l'acte de décès du grand-père, par exemple, ou l'acte de mariage du grand-père. On n'a pas le droit de les consulter, mais l'officier d'état civil, normalement, il doit vous fournir ce renseignement. Donc, on va dans les communes pour consulter l'état civil. Et qu'est-ce qui est intéressant à consulter? Eh bien, en priorité, les actes de mariage. Parce que dans un acte de mariage, on trouve énormément de renseignements. On trouve, bien entendu, déjà les deux conjoints. On trouve les quatre parents de ces conjoints. On va trouver des témoins avec généralement le lien de parenté. On trouve des âges. Et dans la période récente, ces actes de mariage sont extrêmement précis. On trouve des tas de choses. Plus on va aller dans le temps, le plus ça va devenir laborieux. Hein. Ça dépend aussi des régions. Hein. Il y a des régions, en Saône-et-Loire, on a la chance d'avoir des actes très documentés, très précis. Vous allez dans le Jura, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On avance bien moins vite et on est vite arrêté. Mais bon, voilà le principe. Donc, l'acte de mariage est extrêmement intéressant. Autre acte, ensuite, intéressant à consulter, l'acte de décès. L'acte de décès, vous avez bien entendu le nom de la personne, vous pouvez trouver les noms des parents, pourquoi pas, vous pouvez trouver le nom du conjoint, savoir si le défunt était veuf ou encore marié, vous allez trouver peut-être sa date de naissance dans la période récente, oui, ça existe, sinon vous aurez son âge, vous aurez sa profession, vous aurez son domicile. Et puis, autre document à consulter, l'acte de naissance. Paradoxalement, on pourrait croire que c'est l'acte de naissance qui est le plus utile, mais non, c'est le contraire. L'acte de naissance est beaucoup moins instructif. Hein. Alors, est-ce que j'ai mis ici... Voilà un extrait d'acte de mariage. Alors, c'est un extrait, hein. Je n'ai pas la page entière. Il y a une page derrière, mais c'est du bavardage, donc je ne l'ai pas reproduite. Alors, c'est un mariage d'Auguste Aimé Ferry qui s'est marié, on a les renseignements en marge, vous voyez, à Marie-Victorine Royer le 9 décembre. Alors, l'an 1876, le 9 décembre, à 4 heures du soir, par devant nous, etc. C'est dans la mairie de Moret dans le Jura. Alors, donc, le sieur Ferry Auguste Aimé, âgé de 30 ans, ouvrier en orfèvrerie domicilié à Moret, où il est né. Intéressant, vous voyez. Il est né le 18 octobre 1846. Il est fils majeur de César Auguste Ferry. Il est âgé de 57 ans, horloger, et de Marie-Victorine, je pense, Poumoine, âgée de 60 ans, journalière, tous deux domiciliés à Moret, ici présent et consentant. Voilà des renseignements concernant l'époux. Donc, on a une mine de renseignements. Hein. L'épouse, demoiselle Royer Marie-Victorine, âgée de 19 ans, brunisseuse. Brunisseuse, c'est une personne qui travaille l'or, ils travaillaient tous les deux l'or. C'est une personne qui travaille qui a un brunissoir, c'est-à-dire un petit instrument, et elle polit l'or pour le rendre parfaitement lisse, qu'il n'y ait plus d'éraflures, etc. Hein. Domiciliée à Moret, née à Champagnole, le 5 décembre 1800. 56, elle est fille mineure de Jean-Baptiste Royer, en son vivant cultivateur domicilié à Champagnole, où il est décédé le 13 et de, etc. Donc on trouve, on avance extrêmement vite là, hein, le mariage, les dates de naissance, les parents, ils sont en vie, ils sont décédés. Bon, beaucoup de renseignements dans cet acte. Hein. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Ça, nous sommes au milieu du 19e siècle, hein. Voilà, d'autres actes de mariage à d'autres époques. Alors, tout en haut, c'est en Meurthe-et-Moselle. Alors là, ce n'est même pas un acte de mariage, hein, c'est une ligne, point final, et débrouillez-vous avec ça. Hein. J'imagine qu'on ne pensait pas qu'un jour, il y aurait des personnes qui s'intéresseraient à la généalogie et rechercheraient ces gens-là. Alors, c'est Catherine Touvenin de Boussière, c'est le nom du village. Elle est mariée à Pierre Audeville, le 9 janvier 1787. Il n'y a pas les parents, mais avec ça, vous êtes bien. Hein. On sait quand même que ce fameux Touvenin était de Boussière. C'est le seul renseignement qu'on connaît. La dernière ligne, François Thiraubois d'Écuelle, c'est le nom du petit pays aussi. Il est marié à Barbe Robin, le 17... je ne vois pas bien, est-ce que c'est février? Février 1789. Bon, on n'est pas loin, hein. On est sous la Révolution. Plus loin dans le temps, 1643. Alors là, c'est un autre problème qui va se poser, c'est l'écriture. Mais il est plus précis, bizarrement, hein, paradoxalement. Alors, le 26 novembre 1643, alors furent épousés, Philibert, c'est abrégé, Philibert Bruchot, fils de feu, les décédés, hein, des fans, autrement dit, Lazare Bruchot et Jan Berthaud, fille de Jean Berthaud. Donc, on a... C'est la paléographie. Alors, on a un peu plus de renseignements, mais bon, difficulté de lecture. Hein. On a quand même les noms des deux pères. Hein. Souvent, les femmes, elles sont un peu oubliées, c'est vrai. Hein. Mais on sait aussi quand même que, par exemple, on voit là un qui est décédé, Lazare Bruchot est décédé, et la fille, elle, de Jean Berthaud, n'est pas dit décédé, donc il est en vie. Bon, vous voyez. Voilà le genre de documents qu'on va exploiter. Alors, les mariages sont utiles, mais attention, il faut recouper après avec quand même les actes de décès et puis les actes de naissance, hein, parce qu'il y a des homonymes. Hein, il faut faire attention de ne pas se tromper. On a vite fait de se tromper. Hein, donc, allez toujours avec prudence et bien contrôler tout ça. Ah, j'en ai pas terminé avec les sources. Donc, je vous disais, l'état civil. Après, l'état civil commence en 1792 en France. Avant 1792, eh bien, c'est les curés qui tenaient l'état civil de l'Église. Et c'est là qu'on parle de baptême, mariage ou bénédiction et de sépulture. Alors, le dernier acte, ça, c'est un acte de curé, ça, hein, un acte de bénédiction d'un curé. Alors, il faut savoir, comme d'ailleurs maintenant, hein, les registres sont tenus en double. Aujourd'hui, l'original est à la mairie, le double est au tribunal de grande instance. Autrefois, du temps des curés, c'était pareil, c'était en double. L'original était donc dans la paroisse et le double au diocèse. Et à la Révolution, l'Église a été obligée de céder ses archives à l'État. Et donc, l'exemplaire de la paroisse est allé à la mairie, et l'exemplaire du diocèse est parti aux archives départementales qui ont été créées en 1796. Alors, méfiez-vous, en principe, c'est le principe, donc les registres paroissiaux, les registres des curés, on les appelle les registres paroissiaux, sont dans les mairies. Toutefois, il y a une dizaine d'années, on a invité les petites communes à déposer les registres anciens aux archives départementales. Alors, si vous voulez un jour faire des recherches dans une mairie, que ce soit l'état civil ou même ou les paroissiaux, prenez la peine de téléphoner, déjà pour connaître les jours, les heures d'ouverture, parce que certaines mairies sont ouvertes 2 heures par semaine, point final, donc on ne fait pas grand-chose. Et puis, renseignez-vous si les registres, vous les consultez, sont bien là ou s'ils sont aux archives départementales. Hein. Alors, et puis quand on a terminé avec ces registres paroissiaux qui remontent plus ou moins loin, hein, ne croyez pas quand même que la Révolution a détruit énormément de documents. Hein. Ça, c'est une idée reçue, il faut oublier ça. Hein. Alors, c'est vrai que dans certains endroits, bon, il y a eu des documents qui ont été détruits par la Révolution. Il y a eu des documents qui ont été détruits par des incendies. Ça aussi, ça existe. Hein. Il y a eu les guerres dans certains endroits. Hein. Quand vous allez dans l'est de la France, bon, ça pose le nord de la France, ça peut poser des problèmes. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu le fil.
En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui,
en dehors donc des registres paroissiaux. Après ça, vous pouvez encore consulter les archives des notaires et en particulier les contrats de mariage. Et là, vous pouvez encore espérer monter une, deux, trois générations. Hein. C'est autre chose, c'est aussi très, très instructif, les archives des notaires. Hein. Et ne pensez pas qu'aux contrats de mariage, on en parlera plus loin, il y a bien d'autres documents qui sont passionnants. Hein. On va plonger vraiment dans la vie de nos ancêtres. Alors, voilà ce que je peux vous dire, si vous voulez, pour la généalogie ascendante, la recherche des ancêtres. On va parler un petit peu, à moins que vous ayez des questions à poser, déjà là-dessus. Oui.
Vous parlez d'une famille classique. Et où sont les bâtards?
Alors, quand on fait sa généalogie, c'est la généalogie officielle. Hein? Le bâtard, il a un nom, il est rattaché à une personne. Alors, il y a les filles-mères aussi. Alors là, on bloque en général avec les filles-mères. Hein? En général, surtout dans l'état civil, là, c'est bloqué. C'est très difficile de remonter, quasiment impossible. Hein? Mais bon, on est dans des cas particuliers. Et puis, attention, les filles-mères, hein, je vous l'ai dit, c'est le 19e siècle. Hein. Avant, ça n'existait pas, les filles-mères. La morale était beaucoup plus stricte. D'abord, on se mariait déjà tardivement, un peu comme on le fait aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Et les écarts de morale, hein, de sexualité, étaient très, très mal vus. Hein. Disons que les filles-mères, c'est essentiellement avec la révolution industrielle que ça apparaît. Les populations se déplacent. La campagne se dépeuple, elle va habiter en ville où des industries nouvelles apparaissent. Donc, il n'y a plus la chape de la famille, de l'environnement. La misère est là aussi, on vit dans la promiscuité et tout. Donc, c'est essentiellement au 19e siècle qu'on trouve des filles-mères. Quant à comme je vous dis, donc c'est une généalogie officielle. Hein. Alors, on m'a cité des chiffres, hein, et ça donne aussi le vertige. Hein. Il paraît qu'aujourd'hui, trois enfants sur 10 n'ont pas, ont pour père légitime, ce n'est pas le père biologique. Hein. Vous vous rendez compte? C'est énorme, énorme. Hein. C'est énorme. Alors, dites-moi. Je dirais quelques mots là-dessus, oui. Ah bon, c'est un peu particulier, les juifs et les protestants, c'est pas bien ma spécialité, mais il existe des associations de recherche généalogique juive et de recherche généalogique protestant. Oui, alors bon, il y a déjà tout l'état civil qui est commun. Alors après, évidemment, là, vous avez les pasteurs et bon, c'est un peu différent. Alors, pour les juifs, c'est encore plus compliqué parce que c'est sous Napoléon qu'on a obligé les juifs à avoir un nom fixe. Hein? Avant, les juifs changeaient les enfants portaient pas le nom du père, de la mère, ou c'était un peu n'importe quoi. Hein? Oui. Donc,
il y a les cimetières aussi qu'on peut
trouver. Alors, exact. Dans les cimetières, oui. Si vous avez des recherches à faire dans une région que vous ne connaissez pas, que je fais toujours, hein, parce que les noms, vous avez vu, c'est pas facile, hein, et les noms changent d'une région à l'autre. Hein. Les noms du Morvan sont pas les noms de la Bresse, qui sont pas les noms, évidemment, de Lorraine et de Bretagne. Hein. Donc, la première chose à faire, vous allez au cimetière, vous allez voir le monument aux morts pour vous imprégner des noms de la région, hein, d'apprendre les noms de la région. Et heureusement, on va pas directement en 1600 et quelques comme tout à l'heure, on part aujourd'hui et petit à petit, on remonte dans le temps et on s'habitue à l'écriture, on s'habitue au nom. Hein, comme pour lire les actes, il y a une part de devinette quand même. Hein. On verra, il y a tous les problèmes de...
L'orthographe n'était pas fixe.
Exact. Bon, je reviendrai, c'est la deuxième partie, hein, je reviendrai sur l'orthographe.
Bon, on continue là.
On y va? Bon, alors, généalogie descendante. Il s'agit maintenant de trouver les cousins. L'arbre généalogique. À l'arbre généalogique, ce n'est pas celui qu'on a vu tout de suite. Hein. On avait dit en généalogie ascendante, deux parents, quatre grands-parents, on divise à chaque génération, on multiplie par deux. Hein. Ici, en généalogie descendante, il n'y a pas de règle. Hein, il n'y a pas de règle. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, il y en a d'autres qui ont un enfant, il y en a d'autres qui en ont deux, il y en a d'autres qui en ont 10, voire 15. Donc, il n'y a pas d'arbre normalisé. Et à chaque fois, il faut faire son arbre. Alors, sous une forme ou une autre, voilà, par exemple, une forme d'arbre qu'on a pu construire. Hein? Donc, il s'agit des Fleurot, une famille assez célèbre des Vosges, une famille d'ostéopathes, 400 ans ostéopathe, hein. Ça s'est terminé en 1960 à peu près. Bon, vous voyez, là-haut, voilà un couple, Fleurot, qui est marié avec une certaine Françoise Arnoux. Alors voilà, donc Claude Fleurot, mariée à Françoise Arnoux, et remariée à Bolmont-Madeleine, je crois. Alors, si je parle de ce couple, sans doute le premier, vous voyez, la date de mariage, 1864, c'est ça? 1664, et là, 1666. Bon, donc, de ce couple, Fleurot-Bolmont, voilà un enfant, Jean, marié avec une Voirin, et puis là, voilà un Fleurot, je ne sais plus comment, là, avec une autre Fleurot, d'ailleurs, et marié une autre fois avec une Bolmont encore. Et puis voilà, de l'autre couple, voilà deux enfants qui naissent du couple Fleurot-Arnoux. Chacun a un enfant, ici apparemment, ce n'est pas développé peut-être, hein, pas de descendants, et de ce couple Fleurot-Babel naissent deux enfants, Fleurot-Claude, Fleurot-Jean-Baptiste, le premier marié avec une petite Jean et l'autre avec une Richardot. Voilà le genre de présentation qu'on va faire, hein. Donc là, c'est au coup par coup, hein, on invente au fur et à mesure. Ah, numérotation. Ce n'est plus la même numérotation que Sosa Skodonis. Elle n'est pas applicable à la numérotation Sosa Skodonis. Là, c'est la numérotation d'Aboville. Alors, d'Aboville est un généalogiste contemporain, hein, Jacques d'Aboville. Voilà un exemple de numérotation d'Aboville. Alors, on part donc d'une personne qui vit il y a déjà un certain temps. Je suis parti de Jean Bourdieu, je lui ai donné le numéro 1. Là, j'ai développé un petit peu, il est né Jean Dulay, tiens, hein, une particularité. C'est un enfant naturel d'Antoine Dulay, d'où son nom, hein, au départ. Il est né le 15 mars 1825 à Étang-sur-Arroux. Il a été reconnu en 1883 par le mariage de sa mère avec un Philibert Bourdieu, et c'est là qu'il change de nom. Alors, ce Jean Bourdieu, il a plusieurs enfants. Il a 9 enfants. Et à chacun de ces enfants, j'attribue un nouveau numéro. Je reprends comme numéro pour chacun d'eux le numéro du père. Donc c'est déjà, tous ont un numéro 1 au départ. Et puis, suivant leur rang de naissance, j'ajoute un chiffre. L'aîné, numéro du père, plus 1, Philibert Bourdieu. Le second, numéro du père, plus 2, Pierre Bourdieu. Le troisième enfant, numéro du père plus 3, Lazaret. Quatrième enfant, Jeanne Bourdieu, etc. Voilà la numérotation d'Aboville. Alors, en ce qui concerne maintenant, j'aurais pu développer plus, hein, je vais développer pour Philiberte Bourdieu, qui porte le numéro 1-5. Je la reprends, là voilà, Philiberte Bourdieu, avec son numéro. Alors, elle est le cinquième enfant de Jean Bourdieu et de Louise Duriot. Elle est mariée une première fois à un certain Présent et une deuxième fois à un Schaffer. Bon, ça n'a pas été développé plus. Le 26, Philibert Bourdieu, le voilà. Alors, il est né à Étang en 1863, de Jean Bourdieu et de Louise Duriot. Ben, c'est ah ben, je... Attendez, Jean Bourdieu, le voilà là-haut, hein, qui est marié à Louise Duriot, le voilà. Et les enfants. Les enfants de Philibert Bourdieu, qui est marié avec une fille, Claudine Branlé. Pour les enfants, je reprends le numéro de Philibert Bourdieu, 1-6. Tous ont un numéro qui commence par 1-6. L'aîné a le numéro 1-6-1. Elle s'appelle Lazareth Bourdieu. Le suivant, Jeanne Bourdieu, le 1-6, puisqu'elle est née numéro 16, hein. 2, le troisième enfant du 16, 16-3, le quatrième enfant, 16-4, etc. Voilà la numérotation Sosa Skodonis. Et puis on peut repartir, hein, par exemple, avec Jean-Marie Bourdieu, hein, si je me contente des hommes, Jean-Marie Bourdieu a le numéro 1-6-3, 163, son aîné aura le numéro 163-1, le second 163-2, etc. S'il y a plusieurs mariages, eh bien on va ajouter une lettre. En imaginant que Jean-Marie Bourdieu soit marié deux fois, je partirai pour les enfants de 163. Du premier mariage, je mettrai 163 A, A1, A2, A1, 163 A1, l'enfant suivant, 163 A2, l'enfant suivant, toujours de ce premier mariage, 163 A3, etc. Et si un enfant naît du deuxième mariage, je mettrai 163 B, B1, mais 2, mais 3, etc. Hein? Voilà la numérotation sous astre Adonis. Alors bon, c'est intéressant, mais si vous avez une généalogie développée, c'est pas facile à s'y retrouver. Hein? Enfin, c'est comme ça, on peut. C'est la plus utilisée. Hein? Alors, on continue. Ah, voilà maintenant les nouvelles. Ah, si, je ne vous ai pas parlé des sources. Tiens, oui, ça n'apparaît pas là. Les sources en généalogie. Les nouvelles sources pour la généalogie descendante. On peut bien sûr toujours avoir affaire, se référer à l'état civil, aux paroissiaux, hein, c'est toujours valable. On peut utiliser maintenant pour trouver des cousins, donc, on peut utiliser les tables décennales. Dans l'état civil, depuis 1792, tous les 10 ans, les mairies font des tables dans l'ordre alphabétique des personnes baptisées, mariées, décédées. Donc, si vous êtes intéressé aux Bourdieux, vous trouvez facilement tous les Bourdieux qui naissent dans la période concernée, c'est par tranche de 10 ans. On utilisera les recensements aussi, qui sont déposés aux archives départementales. Là aussi, c'est assez facile, hein. Vous partez d'une famille, vous allez trouver toute la famille à la date du recensement. Les recensements vont de 5 ans en 5 ans. Hein. On peut utiliser aussi, pourquoi pas, les annuaires de téléphone. Voilà une autre source encore possible. Alors voilà un exemple de recensement. C'est un recensement à Mèvres, donc en Saône-et-Loire. Vous voyez, c'est, la référence est ici. Alors je prends ce couple-là. Tenez, voilà une. Ça, c'est 14, c'est le numéro d'une maison, hein, qui est située au bourg. Hein. Et là, voilà une accolade qui réunit toute la maisonnée, ici. Hein. Réunis par la collègue 14. Alors, les individus aussi sont numérotés. Bon, ça n'a pas d'importance, hein, c'est simplement une sorte de statistique. Le chef de famille, Lazare, il est chef, hein, chef de famille. Lazare Berthier, il est né en 1879, je crois. Combien 1812, bon. Qu'est-ce que c'est idem, sans doute, hein, à Mèvres, sans doute. Qu'est-ce qui est marqué là? Je ne sais pas bien. Chef de famille, voilà sa profession. Il est boulanger et il est patron. Bon, patron boulanger, voilà. Son épouse, elle s'appelle Lamal Marguerite, c'est son épouse. Vous voyez? Elle est née à Autun en 1800. Bon, je ne vois pas bien, ça termine par un 5, peu importe. Hein? Bon, ben, elle est boulangère aussi. Les enfants, une fille, Jeanne Berthier, 1897, je crois, née à Mèvres. Voilà. Une autre fille, Marie Berthier, née en 1901, à Mèvres. Et puis, encore une autre personne, Georges Ferry. Il est né à Paris en 1890. Il est ouvrier boulanger, et son patron, c'est Berthier. Ben voilà, il travaille pour le Lazare Berthier. Hein? Et puis, on peut continuer. Voilà, ici, un autre, voilà, une famille Vadreau. Là encore, ah, il est pensionnaire, celui-là. Pensionnaire, ah bon. Nous sommes dans le Morvan. Nous sommes dans le Morvan, et là, il y a beaucoup d'enfants assistés qui venaient de Paris ou de je ne sais pas trop où. Et il y a beaucoup de familles, en effet, qui élevaient, qui nourrissaient ces enfants. Voilà le thème de pensionnaire. Voilà le sens. Hein. On en voit beaucoup. On continue. Les nouveaux étuis en généalogie. Bon, là, je vous ai parlé de la généalogie traditionnelle telle que je l'ai faite quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, ça a quand même bien changé. Les principes sont toujours valables, mais on a aujourd'hui des outils qu'on n'avait pas il y a 40 ou 50 ans. D'abord, il y a des associations qui sont apparues, qui sont multipliées. On en a une à Châlons, on en a une en Saône-et-Loire, on en a plusieurs même locales en Saône-et-Loire, il y en a en Côte d'Or, il y en a un peu partout. Et comme je vous disais, la généalogie, hein, c'est un immense travail, donc on a besoin de s'entraider. Et les associations font des dépouillements, par exemple, des relevés des registres paroissiaux. Et vous adhérez, on va vous communiquer des renseignements, ils éditent des bulletins, tout ça. Hein. Autre source aussi, les mormons. À Chalon-sur-Saône, on a une église mormone qui ouvre ses portes aux généalogistes. Et qui, bon, il faut se déplacer, hein, il faut aller à l'église, à leur centre de recherche. Vous pouvez louer une bobine de microfilm qui est la reproduction parfaitement légale, officielle, de l'état civil ou des paroissiaux, et ça du monde entier. Vous pouvez consulter à Chalon des documents qui viennent du Jura, qui viennent de Bretagne, qui viennent d'Italie, qui viennent d'Allemagne, qui viennent des Indes, d'Australie, un petit peu partout. Hein. Ça coûte 8,50 €, vous avez la bobine pendant 3 mois. Bon, vous ne pouvez pas y aller tous les jours, hein. Vous y allez une fois par semaine, 3 heures, mais enfin, vous faites déjà pas mal de travail. Hein, c'est quand même intéressant. Moi, j'ai vu ici, j'y vais régulièrement, hein, des personnes chercher en Pologne, chercher au Chili, ici, à Chalon. Hein. Alors, c'est rue de la Motte, en face le parking dans le bâtiment, là. Hein. Bon, il faut monter à l'étage, c'est ouvert, eh ben aujourd'hui, c'est ouvert tout de suite, voilà. Hein. Autre outil. Internet. Internet a bouleversé complètement la généalogie. À deux aspects. D'abord parce qu'il y a des sites de généalogie. Certains sont payantes, mais il y en a au moins une qui est gratuite, qui est très utilisée, qui s'appelle geneanet.org. Alors là, vous allez trouver des tas de choses, mais attention. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Alors ça peut vous aider, mais vérifiez, vérifiez, vérifiez tout. Et méfiez-vous, hein, c'est pas parce que c'est multiplié, recopié, recopié que c'est juste, hein. C'est la rumeur, hein, c'est pas parce qu'on répète que c'est vrai, hein. Donc vérifiez, vérifiez tout. Mais c'est quand même très utile parce qu'il arrive un moment, on ne sait plus où chercher, c'est trop imprécis, on ne sait pas. Et certains ont trouvé la solution et vous le communiquent. Et puis toujours avec Internet, c'est autre chose. Beaucoup d'archives départementales ont numérisé leurs documents anciens, leur état civil et leurs registres paroissiaux. Et maintenant, au lieu de vous déplacer, d'aller à Mâcon, d'aller à Dijon, d'aller à Nancy ou ailleurs, hein, vous pouvez, depuis votre ordinateur, consulter ces documents. Et c'est la plupart du temps gratuit. Il doit y avoir une exception, je crois, en France, c'est payant. C'est la Charente ou Charente-Maritime, je ne sais plus. C'est à peu près la seule exception. Hein. Donc, ça aussi, c'est un gros, gros progrès. C'est pas tout à fait tout numérisé. Puis alors, il y a des personnes indécrottables, hein, comme le Jura et puis le Doubs. On se demande si ça sera fait un jour. Hein. Bon, ouais, c'est comme ça, mais ça viendra, parce que là, il y a quand même une pression derrière. Hein. Bon, je pense pas avoir trop oublié d'outils. Alors, on passe à la deuxième partie, si vous voulez. À moins que vous ayez encore des questions.
Non, mais on va les faire à la fin.
On les fera à la fin. Alors, les sciences connexes ou les sciences annexes? Les sciences connexes, donc sciences complètement mêlées à la généalogie, complètement imbriquées dans la généalogie. Alors, j'ai mis l'histoire, la géographie. Je vais parler des deux, si vous voulez, ensemble. C'est étroitement mêlé aussi. Donc, quand on fait de la généalogie, il faut toujours bien se plonger dans le temps, dans l'époque et dans le lieu. On ne fait pas les mêmes recherches en Saône-et-Loire qu'en Savoie. Et oui, la Savoie, elle n'est pas française depuis bien longtemps. Hein. Je vous disais, sous la Révolution, les curés de la France de l'époque ont été obligés de déposer leurs archives aux archives départementales et dans les mairies. Mais oui, mais la Savoie, elle n'était pas française à cette époque. Donc les curés ont en principe toujours leurs registres paroissiaux dans les cures. Donc, si vous voulez aller faire des recherches dans les documents anciens, c'est avant 1860, hein, il faut aller dans les cures. Voilà. Hein. Les frontières sont déplacées, comme je l'ai dit. Alors, c'est le problème de l'Alsace, de la Moselle. Hein. Les communes ne sont pas les mêmes aussi. Hein. Il y a des communes nouvelles qui sont apparues, comme le Creusot, Monceau, Montchalin. Il y en a d'autres qui ont disparu, ou des paroisses qui ont disparu. Alors, par exemple, dans notre département, il y avait une paroisse qui s'appelait le Gratou. Le Gratou, c'était du côté de Montchalin, ça fait partie aujourd'hui de Saint-Eusèbe. Du côté de Curgy, vous aviez une paroisse qui s'appelait Saint-Denis-de-Péon, qui a disparu aussi. Alors, les documents sont à Curgy, maintenant. Il y a des communes, des paroisses qui ont changé de nom. Je pense, par exemple, en Franche-Comté, il y avait une paroisse qui, avant la guerre, je ne sais plus trop laquelle d'ailleurs, hein, s'appelait Les Allemands. Bon, ben, il ne faisait pas bon habiter là-bas, hein. Il est obligé de changer de nom et s'appelle les Alliés maintenant. Vous avez des paroisses qui ont changé de nom. Saint-Nizier-sous-Charmois, c'est devenu les Biseaux, c'est du côté de Mont-sous-les-Mines. Hein? Bon, ben, il faut le savoir, tout ça aussi. Vous aviez aussi, autrefois, des villages alternatifs. Alors, qu'est-ce qu'un village alternatif? C'était un hameau qui se trouvait de part et d'autre d'un chemin, et le chemin faisait la séparation entre deux paroisses. Alors, je pense, par exemple, au Bardin. D'un côté du chemin, ça faisait partie de la Tanière. De l'autre côté, ça faisait partie de la chapelle sous Huchon. Alors, les dimanches, une partie des gens qui allaient à la messe, parce qu'on allait à la messe à cette époque, hein, à la chapelle sous Huchon, et l'autre partie de l'autre côté. Alors, ça n'allait pas bien. Alors, on a décidé, pour ces villages, eh bien, qu'une année sur deux, le hameau serait rattaché à la paroisse de la chapelle sous Huchon, et l'année suivante, rattaché à la paroisse de la Tanière. Alors ça complique un peu, hein. Vous voyez, on ne sait jamais bien de quel côté il faut chercher. Bon, ça aussi, c'est à connaître, hein. Bon, la frontière a pu se déplacer, hein. Ça paraît pas, mais tout récemment encore, la frontière française, notre métropole, s'est déplacée en 1975. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui doivent le savoir, ça. On a rendu à l'Italie un petit village qu'on lui avait pris en 1947. Le long de la frontière italienne en 1947, on a déplacé la frontière dans 6 ou 7 endroits. Alors parfois c'était à 1 km, c'était pas bien grave, hein, mais parfois c'était beaucoup plus. Alors 1 km c'était au col du Petit Saint-Bernard, au col du Mont-Cenis on a pris beaucoup plus de terrain, hein, beaucoup plus de terrain, tout l'alpage, tout le lac, c'est tout devenu français. Et la commune la plus petite d'Italie, eh ben elle se trouve justement en limite du col du Mont-Cenis. Hein, parce qu'on lui a laissé le village à l'Italie, mais toutes les bonnes terres et le barrage qui pouvait produire l'électricité, on lui a pris. Bon, on trouve ça aussi. Je vous disais, en 1975, on a rendu un petit village, c'est au col du Mont-Genèvre, il s'appelle Clavière, ce petit village. C'est pareil, il était devenu français en 1947 et on l'a rendu en 1975. Puis le plus gros morceau, c'est tout le canton de Tende. Alors là, on a pris plusieurs communes à l'Italie qui sont françaises aujourd'hui. Hein. Bon, donc on a un lien, il faut connaître l'histoire. Il faut connaître les règles de l'époque également. Hein. Quelles sont les règles qui s'appliquent à cette époque, etc. Hein. On n'applique pas les mêmes règles dans Franche-Comté qu'ici, il y a quelques siècles. Hein. La Franche-Comté, c'était l'Empire. Ici, c'était le royaume de France. Hein. Bon, voilà pour la géographie. On continue. Chronologie. Alors, les calendriers. Bon, aujourd'hui, on utilise le calendrier grégorien. Hein. Sous la Révolution, de 1792 à 1806, on avait un autre calendrier, le calendrier républicain, complètement différent de celui d'aujourd'hui. On avait toujours 12 mois, mais tous les mois avaient 30 jours. Donc 12 fois 30, ça fait 360. Ça faisait pas le compte. Donc on rajoutait à la fin 5 ou 6 jours complémentaires, qui étaient des jours de fête. Bon. Les mois ne s'appelaient plus janvier, février, etc. On avait d'autres noms. Le début de l'année du calendrier républicain, c'était le premier vendémiaire. Donc vous voyez, vendémiaire, hein, c'est un nom de mois. Et le premier vendémiaire de l'an 1 correspondait donc au 22 septembre 1792. Alors, on n'y voyait aucun rapport avec l'automne. C'est un hasard si c'est le jour de l'automne. C'est simplement le premier jour de la Première République. Hein? Premier vendémiaire de l'an 1. Le mois suivant, c'était Brumaire. Le mois suivant, c'était Frimaire. Tous les noms qui se terminent par AIRE sont des mois de l'automne. Ensuite, ce sont les mois en ose. On avait nivose d'abord, puis pluviose. C'est maintenant pluviose. Hein? C'est maintenant. Vous comprenez pourquoi, hein? On s'étonne qu'il pleut. Bah oui, bah, apparemment. Hein? Et ensuite, on a eu, je prends mon papier parce que je ne sais plus, c'est les mois en ose, hein? Donc les mois de l'hiver. Alors, on a eu, il faut, ventose. Ventose. Les mois du printemps, germinal, floréal, prairial, et les mois de l'été, messidor, thermidor, fructidor. Et là, il n'y avait plus de lundi, mardi, mercredi, hein. C'était des décades, il n'y avait plus de semaines même, c'était des décades, des périodes de 10 jours. Alors c'était le premier jour, primidi, duodi, tridi, etc. Hein? Donc quand on entre dans cette période, il faut jongler un peu. Hein? Il faut déjà, donc le repère, c'est la terminaison des noms. Hein? On sait déjà à peu près, mais ça, attention, ça complique. Hein? Je vous l'ai dit, l'année ne commence pas le 1er janvier, mais le 22 septembre de notre calendrier d'aujourd'hui. Hein? C'est Fabre d'Églantine, donc, qui a créé ce calendrier. Une chose, il n'existe pas dans 1 et dans 2. C'est théorique. Vous ne trouverez aucun document avec l'an 1 et l'an 2. Ben oui, parce que le calendrier, il n'est pas venu d'un coup de baguette magique, premier jour de la République, ça y est, on change tout. Hein? Il a fallu que ça mûrisse, on a pris le temps, donc, et ça a mis 2 ans pour qu'on conçoive ce calendrier, et on l'a fait partir, donc, du 1er Vendémiaire en 1, 22 septembre 1792. Hein. Alors, c'est pareil, cette discussion, vous savez, quand est-ce qu'on est... Est-ce que l'année 2000, c'était le début du 21e ou du 20e siècle? Là, il y a de quoi réfléchir aussi, hein, parce qu'il n'y a jamais eu dans 1 ou dans 2 Jésus-Christ. Hein, c'est seulement en 500 et quelques qu'on a commencé à compter à partir de l'année de la naissance de Jésus-Christ. Hein. Une chose aussi... Pour ceux qui font déjà de la généalogie, il y a un problème avec l'an 7 pour les mariages et l'an 8, 18 mois en gros. Hein. Les mariages à cette époque, le pouvoir en place avait décidé que les mariages devaient être célébrés obligatoirement le dimanche au chef-lieu de canton. Donc si vous cherchez dans un petit village et ce n'est pas le chef-lieu de canton, vous pouvez chercher un moment. Hein. Et si c'est dans cette époque, il faut penser, il faut aller chercher donc au chef-lieu de canton. Alors, je fais défiler encore si vous voulez. Avant ce calendrier donc grégorien, celui qu'on a en bas là, hein, celui actuel, hein, le calendrier publicain, avant c'était à nouveau le calendrier grégorien. Et encore avant, donc jusqu'en 1582, de l'an 45 avant Jésus-Christ en 1582, on avait le calendrier julien. Jules César donc est à l'origine de ce calendrier. Et il s'était un peu trompé, donc je crois qu'il avait prévu un calendrier plus long que l'année solaire. Et d'un seul coup, il a fallu sauter une dizaine de jours. Hein, voilà. Il y avait des mauvais calculs. Et puis encore, bon, aujourd'hui, même avec le calendrier grégorien, hein, j'ai noté, j'ai pas relevé, hein, il y a peu de temps, 2-3 ans, on a avancé d'une seconde notre montre pour être vraiment à l'heure des astres. Hein. Un autre document, tenez, alors sous le calendrier républicain, il n'y avait plus de saints. On n'avait plus entendu parler des saints. Hein. Donc, on avait inventé d'autres prénoms. On va prendre Pluviose, hein, le mois d'aujourd'hui. Vous voyez, Pluviose, voilà les prénoms, 30 jours, hein, les prénoms de l'époque. Alors, nous sommes le 13. Le 13, ça doit correspondre à peu près au 23. Alors, vous voyez le prénom du... Chien-dent. Voilà la fête d'aujourd'hui. Alors, ce sont des plantes, souvent. Ce sont des instruments agricoles. On trouve un peu tout. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, tous les indices. Vent, serpette, cordeau, bêche, coignet, fléau, crible, traîneau, plantoir, et puis des plantes. Alors, pissenlit, pâquerette, bon, persil... C'était un peu n'importe quoi. Alors, ça n'a pas connu beaucoup de succès, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est peut-être de cette époque que datent les roses, les marguerites, je ne sais pas, les violettes, peut-être, hein, je ne sais pas. Je vous signale quand même que depuis 1993, les prénoms sont libres aujourd'hui. On ne fait plus référence au calendrier des saints. Hein. Donc, tout est possible, sauf si ça nuit quand même vraiment de trop, à l'enfant. Hein. Donc et là, c'est un juge qui prend la décision. Mais si vous voulez appeler quelqu'un Pepsi, vous avez le droit. Hein. Il y en a qui ont voulu appeler leur enfant Starkey, et puis l'autre, Hutch. Enfin bon, moi je veux bien, mais enfin, bon, c'est un petit peu n'importe quoi tout ça. Hein. Alors, la paléographie, voilà une science encore complètement imbriquée dans la généalogie. La paléographie, c'est la science qui étudie l'écriture, l'écriture des textes anciens. Le déchiffrage, voilà. Les lettres ont évolué, et certaines beaucoup. Alors, en voilà quelques-unes. Le A, je me suis placé à diverses époques, 19e siècle, 18, 17. 16e, bon, les A, ben, du 19e, c'est comme aujourd'hui, hein, c'est ça, vous voyez, il y a des exemples. 18e siècle, bon, on lit. Ah, 17e, voilà des A. Vous voyez, voilà des A. Ça devient plus compliqué. Au nom de Dieu, AG. AG. Alors, remarquez qu'on écrivait AG comme ça. A-A-G-E, accent aigu. Vous connaissez l'accent circonflexe, hein? L'accent circonflexe remplace généralement une lettre, souvent un S. Mais à G, il n'y a pas de S. Hein? La lettre qui a été supprimée, c'est un A. Et c'est pour ça qu'on écrit AG ou AGE avec un accent circonflexe. Bon, à Martin, bon, etc. Le A plus avant, en voilà d'autres. Voilà des A. Ah, ça devient plus compliqué. Vous voyez? Voilà l'évolution de l'écriture. Alors bon, on ne se plonge pas à cette période, hein, en général, directement, hein, on n'y arrive pas, on remonte petit à petit et on apprend petit à petit. Hein. Pour apprendre, ben, il faut pratiquer. Hein. Le R, bon, je passe un peu vite parce que je crois que vous êtes un peu bousculé aussi. Donc regardez les R du XVIIe siècle, vous voyez, ça c'est un R. Souvent, il est présenté comme ça. Voilà des R, on peut les confondre avec des V, hein. On peut les confondre avec des V. C'est pour ça que c'est très utile, comme on le voyait, on le disait tout à l'heure, de passer au cimetière pour lire les noms et au-dessus du monument aux morts, se familiariser avec les noms. Quand c'est un nom commun encore, on peut deviner le sens, hein, on peut le retrouver, mais un nom propre, c'est pas facile. Hein. Et puis voilà d'autres R encore plus difficiles à lire. Hein. Le S aussi, on pourrait multiplier les exemples. Voilà le S. Ah, tenez, voilà qui sont intéressants des S. Regardez ces deux S là. Regardez ceux-là. Des S majuscules là. Alors, je vais vous raconter une anecdote au propos du S. Souvent, quand il s'agit d'un double S, il y en a un des S qui est fait comme un F. Et ça peut prêter à confusion. Alors, voilà. Une histoire, une anecdote. Vous connaissez M. de la Palisse, il a la palissade. M. de la Palisse était un maréchal de France, un grand soldat, qui est mort en 1525 au combat à Pavie. Et il était particulièrement apprécié et aimé de ses soldats. Alors, quand il est mort, les soldats ont inventé une chanson. Voilà le début. M. de la Palisse est mort devant Pavie, hélas. S'il n'était pas mort, il ferait encore en vie. Et puis, la chanson a été recopiée, et puis un jour, eh bien, ça a dérapé. Et c'est devenu « Monsieur de la Palisse est mort devant Pavie ». Hélas, s'il n'était pas mort, il serait encore en vie. On a confondu le F et le S. Et c'est comme ça que sont nés les Lapalissades, c'est comme ça qu'on a fait d'un vaillant soldat un zozo dont on rit aujourd'hui. Hein. Voilà. Voilà l'histoire de cette personne. Un autre caractère qu'on rencontre en généalogie, c'est ce signe-là. C'est le E, certains, oui, on le lit le E, certains le lisent E commercial. Son nom est ET, E-T-E. Et on le trouve j'ai noté quelques exemples, parfois sous une forme déformée, on reviendra un petit peu là-dessus. Et ça, c'est un caractère du dictionnaire. Si vous prenez les vieux dictionnaires de 1900, moi j'ai des dictionnaires de 1900, c'est la dernière lettre de notre alphabet, X, Y, Z, et le et. Et, enfin, et, façon de dire. Autrefois, on apprenait à lire, mais bon, ça n'allait pas bien loin souvent. Hein. On apprenait l'alphabet. Alors, on demandait aux enfants, les maîtres demandaient aux enfants de réciter l'alphabet. A, B, C, D, X, Y, Z, et. Et puis, pour terminer, sur une note gaie, on leur faisait ajouter perluette, comme on pouvait dire cacahuète, pirouette ou je ne sais trop quoi. Et perluette est devenu le nom exact de cette lettre. C'est plus et, c'est échangé, c'est devenu perluette. Et il est souvent associé, donc, ce perluette avec des symboles, je ne sais pas, tenez, ici, par exemple, vous avez ce signe avec un C ou CA, et ça veut dire etc. Et on trouve ça en particulier à la fin des contrats de mariage. Parce que les contrats de mariage, c'est toujours la même trame. Et le notaire, il arrive à la fin, il en a marre. Et il termine par des formules administratives qui sont toujours les mêmes d'un acte à l'autre. Et il termine comme ça, etc., etc. Voilà. Et ça traduit toute une phrase. Hein, ça veut dire que les parties, eh bien, ne prennent comme règle que ce qui est dit dans le contrat et rien d'autre. Voilà. Et il le répète, alors ça c'est sur la minute, hein, le document qu'il garde chez, qu'il garde à l'étude, qu'il garde chez lui. Sur le document, la grosse, comme on appelle ça, qui est remis aux parties, il note bien entendu la phrase en entier. Hein. Mais ça on le trouve. Et la plupart du temps, les généalogistes ne comprennent pas ce qui est écrit parce que c'est très très mal écrit et c'est très abrégé. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis ? Je vous ai mis un autre document avec des points surlignés. On utilise en généalogie un certain nombre d'abréviations. Et là, on a deux types d'abréviations. Dans la partie supérieure, on trouve comme ici, vous voyez, ça c'est Philibert. P-H-R-T avec un trait au-dessus. Le trait au-dessus marque une abréviation. Parfois, le trait, il descend, il tombe comme ça. C'est une abréviation. Et c'est devenu notre accent circonflexe. Hein? Faut bien comprendre ça. Hein? C'est le tilde des Espagnols, ça, hein, finalement. Hein? Alors, on en trouve un certain nombre d'exemples. Et puis, vous voyez ici, ça va être demeurant, hein, je pense. Demeurant, bon, on ne devine pas bien. Bon, moi, je vois mal. Bon, et puis, dans la partie inférieure, autre type d'abréviation beaucoup plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les notes tironiennes. Du nom de Tiro, l'écrivain romain qui était secrétaire de Cicéron et qui a inventé la première sténo. Il a inventé des signes, nombreux, hein. Il devait y avoir à l'origine, je crois, 3000 signes différents et ça a été augmenté encore au Moyen-Âge. Et on retrouve dans les documents de l'Ancien Régime, dans les contrats de mariage, on trouve des notes tironiennes, des abréviations qu'on retrouve ici. Alors, on en a... Tout à l'heure, je vous parlais du perluette, là. Hein, c'est une forme de note tironienne, ça aussi. Hein. En voilà un exemple, là. Vous voyez ? Vous avez ce signe, là, du début. C'est par. Par, père, port, voilà. Et ça, ça veut dire lesquelles parties des sudis avis, etc. Par. Bon, ça ne peut pas se deviner, hein, il faut le savoir. Ici, comme un œuf, on le voit plus ou moins bien, c'est consentement. Hein, cette espèce de œuf, c'est l'abréviation de con. Ici, c'est le pre. Vous voyez cette espèce de lettre-là. Hein, ça, c'est pre. Voilà le perlubette, là. Hein. Alors, promettre, je crois. On promis et promettre. Vous voyez. Bon, c'est déjà compliqué. Quand on débute, on n'a pas besoin de connaître tout ça. Mais bon, ça fait partie de la paléographie. Hein. On poursuit. L'ethnographie. Alors, qu'est-ce que l'ethnographie ? Alors, voilà une partie très, très intéressante aussi. Et c'est peut-être en marge de la généalogie, mais bon, moi, je trouve que c'est essentiel. C'est plus intéressant que la généalogie elle-même, aligner, faire des listes de noms, c'est bien. Mais bon, avant la Révolution, on commence à trouver des centaines, des milliers de noms et on ne les retient pas très bien. Bon, c'est une collection sans plus. Hein. Mais l'ethnographie, c'est la science qui s'intéresse à la vie des gens. Alors je dis ethnographie, je n'ai pas mis ethnologie, on n'est pas assez prétentieux. L'ethnographe, c'est celui qui recueille des informations, des renseignements sur la vie des gens, sur leurs habitudes, leurs coutumes, leur religion, leur travail, leurs croyances, leur maladie, tout ce que vous pouvez imaginer, les règles de l'époque. Hein. Par contre, l'ethnologue, il va plus loin. Il ne se contente pas de recueillir les renseignements, il va réfléchir, il va analyser ces renseignements. Hein. C'est plus approfondi. Alors, quels sont les renseignements qui peuvent nous intéresser, nous, généalogistes, ethnographes? Eh bien, déjà, évidemment, tout ce qu'on a dit, hein, les contrats de mariage, les actes notariés. Les actes notariés. Alors, qui sont les contrats de mariage? Très intéressant. Les testaments, bien entendu. Les inventaires après décès, hein, lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il reste des enfants mineurs, on a un inventaire des biens du défunt, avec toute la liste, hein, même le chaudron cabossé, fêlé, c'est tout énoncé. Hein, donc ça nous permet de connaître un petit peu la richesse de la personne. Donc les archives notariales. On a aussi les archives fiscales, comme le cadastre par exemple, les rôles d'imposition. Les archives militaires, et dans les archives militaires, quelque chose d'assez intéressant, c'est le tirage au sort, qui a été en vigueur approximativement 1905 à peu près, je n'ai pas bien la date en tête. Hein. Donc le roi ou celui en place, l'État en place, hein, avait besoin d'un certain nombre de soldats, et en général à cette époque, il y avait trop de conscrits pour l'armée. Alors on les tirait au sort. On réunissait chef lieu de canton, là, tirage au sort, le préfet, sous-préfet était là, tous les conscrits étaient là, et puis on tirait un numéro. Et si le canton devait fournir, 50 soldats, ben les 50 premiers numéros étaient partis pour 7 ans, hein, rien que ça, hein, et souvent en guerre. Hein. Et puis les autres, ben, ils restaient chez eux. Voilà. Alors, c'était plus ou moins juste, mais enfin, c'était comme ça. C'était d'autant moins juste, c'est que les riches pouvaient s'acheter un remplaçant. Alors vous pouvez trouver aussi chez les notaires des contrats de remplacement contre une certaine somme, et ben ma foi, un tel partait à la place du fils à papa. Hein, voilà, c'était comme ça. Alors un petit peu de vocabulaire si vous voulez. Celui qui tirait le numéro 1, c'était le bidet. On l'appelait le bidet. Et celui qui tirait le numéro le plus fort, qui est à peu près sûr de ne pas partir, c'était le laurier. Voilà. Donc, archives militaires, hein, les décorations, enfin, tout ça. Alors, je vous ai dit, les archives des notaires, les archives militaires, les archives fiscales, les archives judiciaires. Vous pouvez chercher dans les archives judiciaires. Les tutelles, par exemple, les tutelles, les curatelles, les procès de toutes sortes, hein, civils, pénaux, etc. Vous pouvez consulter même aux archives départementales les registres des crous, des prisons. Vous allez trouver les raisons, on l'a mis en prison, pourquoi? Soupçonné de trafic. Allez, boum, prison. Puis vous y étiez souvent pour un moment, hein, ça badinait pas à l'époque. Hein. Il y a des choses intéressantes là. Vous pouvez consulter les recensements, on en a parlé, vous pouvez consulter les listes électorales, etc. Hein. Alors, deux mots, j'ai rien dit encore sur les archives départementales. Hein. Sachez que les archives départementales sont ouvertes à tout le monde. Hein. C'est gratuit. Il suffit de se présenter avec une pièce d'identité. Les gens ne sont pas là pour faire des recherches à votre place. Mais si vous avez besoin de renseignements, vous ne savez pas faire, ils sont là pour vous aider. Hein. Vous leur dites, c'est la première fois que je viens. Bon, on prend vos références, hein, une pièce d'identité, on vous enregistre, tout. Et puis là, on vous guidera dans vos premiers pas. Alors, sachez aussi qu'on ne va pas demander le registre, par exemple, des mariages de Saint-Marcel de 1850. Ce n'est pas comme ça. On demande le document sous la forme d'une cote, une référence. Bon, ça prend. Alors, les références, tenez, je peux vous donner des références intéressantes aux archives départementales qui nous intéressent. Pour le généalogiste, la série, on parle de série. La série de base, c'est la série E. On va trouver donc l'état civil, les registres paroissiaux, les archives des notaires. Ça, c'est vraiment la première source. On va trouver, par exemple aussi, je parlais des recensements. Alors, les recensements, ça doit être la série... je ne sais plus. Je vous l'ai dit. La série B, c'est la justice d'avant 1790. Série B. Série C, c'est la fiscalité d'avant 1790. Série E, c'est toute époque. Hein. Et les archives de notaires, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi dans la série. La série G, c'est le clergé séculier. Ça peut être intéressant. Vous pouvez trouver des contrats de location, par exemple, le clergé ayant des terres, hein, il louait souvent les terres à nos ancêtres. La série J peut être intéressante. Ce sont des fonds privés qui sont déposés. On peut y trouver des choses intéressantes. La série L, c'est la justice sous la Révolution. La série M, voilà ce que je cherchais. La série M, ce sont les décorations, les recensements, les listes électorales. La série P, c'est le cadastre, l'imposition. La série R, les archives militaires. La série U, la justice. Si je laisse la feuille, si vous voulez, vous verrez après. Hein. Voilà ce qui peut être intéressant. Bon, on poursuit. L'onomastique. L'onomastique, c'est la science de la signification des noms, des patronymes. Alors, comment sont formés les patronymes en France? Disons que jusqu'au XIIe siècle, en gros, les gens ne portaient qu'un nom de baptême, et c'était suffisant. Vous aviez des Jean, vous aviez des Louis, des Marcel, des Martin, c'était suffisant, les villages étaient tout petits, et c'était suffisant pour identifier chacune des personnes. Et puis, à cette époque, la population, sans doute pour des raisons climatiques, a augmenté. Et on n'avait plus assez de prénoms pour distinguer les deux, trois gens qui se trouvaient dans le village. Alors, on a commencé à ajouter un élément à ce prénom. Ça a été le nom. Alors, cet élément... C'est peut-être un métier. C'était le Jean boulanger, ou le Jean fournier, le Jean, tuilier, l'huilier, etc. Ça peut être l'indication du lieu où il habitait. Le Jean Dupont, le Jean de la Roche, parce qu'il habitait à côté du pont, parce qu'il habitait à côté d'un rocher. Ça peut être un aspect physique. Le blond, le brun, etc., le petit, le grand, etc. Parfois, c'est resté tout simplement un prénom. Hein, un prénom exceptionnel, bon, ben, il a gardé son prénom, le prénom est devenu nom. Hein. Et puis au début, ce n'était pas héréditaire, c'est-à-dire que votre fils pouvait très bien porter un autre nom. Vous, vous appeliez Jean Boulanger, mais voilà que votre fils il était tout petit, ben, parfois c'était le Jean le petit, hein, tout simplement. Mais rapidement, quand même, c'est devenu héréditaire. Hein. Parce qu'en général, quand on est grand, on a les enfants qui sont grands, quand on est petit, on a les enfants qui sont petits. Quand on habitait près de Dupont, souvent la famille était toute là, et ma foi, le Jean Dupont, il vivait avec le Claude Dupont, son fils, évidemment. Hein. Et puis les métiers, avec les corporations, c'était assez figé, ça se transmettait de père en fils. Hein. Souvent. Et... voilà les noms les plus courants en France. Hein. Le premier nom, c'est Martin, le deuxième Bernard, Thomas, Petit, etc. Hein. Qu'est-ce que je vous dis encore? Alors, voilà quelques évolutions de patronymes. Et j'ai noté, entre parenthèses, en tout petit, le nom... alors, par exemple, Ferry, vous voyez, on a perdu un R. C'est, pour les linguistes, ce qu'ils appellent un phénomène de syncope, quand on perd une lettre à l'intérieur. Varin... Ça, c'est un nom de Moselle qui va se transformer en Varin, le W changeant. Ça, c'est une mutation. Une lettre se transforme. Cibrario, ça, c'est en Italie. Chiabretti, Tiberio, c'est en italien. Chiabretti, c'est dans le patois local, qui est du franco-provençal. C'est le même nom, mais vous le trouvez une fois sous le nom Tiberio, une fois sous le nom de Chiabretti. Nemo, mon nom. Dans certains endroits, il est écrit avec un Z, avec un S. Ça, ça s'appelle une paragonie. On ajoute une lettre à la fin. Ah, Nemo, c'est latin, exactement. C'est un mot latin, ça veut dire personne. Alors, on en trouve en Bretagne, on en trouve en Savoie, dans le Dauphiné, en Italie, en Amérique, il y en a beaucoup. À Paris, vit un noir qui s'appelle Nemo. Enfin, bon, voilà, c'est un mot latin. Bourdeau, alors bon, là, il n'y a pas de nom particulier. Bourdeau, c'est le nom français. On va le trouver patoisé sous forme de Bourdieu. Et il marque aussi l'origine du lieu, de Bourdeau. Donc, voyez l'évolution. De Velay. Velay, c'est un hameau. Ça peut être détaché, ça peut être regroupé. C'est une assimilation. Béal, un nom d'Auvergne, qui se transforme, alors il faut le savoir aussi, en Bia. Localement, en Auvergne, Béal, ça se prononce Bia. Alors, c'est un gros problème pour moi, hein. Une dissimulation, cette fois, hein. C'est bien caché, hein. Guillemot, le nom du père, la fille, on appellera parfois Guillemelle. Pourquoi pas? Féminisation. Remoisné, un nom de Côte d'Or. La première syllabe est partie. C'est une aphérèse qui se transforme en moissonné. Gatilio, un nom italien. On perd une lettre. On perd une lettre à l'intérieur. Alors, c'est la même chose que là-haut, hein, la syncope. Et puis, ça se transforme. Ça devient gatil. La fin du mot est perdue. C'est l'apocope. Genlo, nom local, là, en Bresse, du côté de Verjus, c'est, oui, Verjus, je crois, les Genlots sont très nombreux. Et on les voit souvent écrits sous la forme de Gélono, hein, permutation à l'intérieur de l'être, métathèse. Et puis on a des noms composés, comme dans le Jura, souvent, Ragan d'Arzur, qui se transforme en Ragan, tout simplement. Beuk Ferry, la première partie, cette fois, était perdue, c'est Ferry. Et puis des noms comme Blondal, qui change en Blondeau. Et puis, les blondeaux sont tellement nombreux qu'on a rajouté encore, on a fait des noms composés, on a décliné ça. Des blondeaux toinis, des blondeaux coulés, des blondeaux notoires, des blondeaux clairs. Mais au départ, c'est tout des blondeaux, tout des blondales. Hein. Voilà quelques exemples d'onomastiques. Alors, la psychogénéalogie. Bon, voilà, on est en marge. Hein. Bon, la psychogénéalogie, c'est plus la généalogie, je vous dis simplement deux mots. C'est essayer de savoir l'influence sur un individu, la psychologie d'un individu des générations précédentes. Alors, le document de base de la psychogénéalogie, c'est le génogramme ou génosociogramme. C'est une sorte d'arbre généalogique qui est enrichi. Donc, on retrouve ici un arbre généalogique. Hein. Vous avez là, donc... Alors, il faut que j'appuie. Donc, là, je pars du 5. Voilà la personne, Jordan le Petit. Hein? Donc voilà son père ici, voilà sa mère. Et ils sont. C'est un remariage, vous voyez. Hein? Là, le père, Laurent. Non, ah, ils ne sont pas mariés plutôt. Hein? Jordan le Petit, il a le nom de sa mère. Hein? D'où les pointillés, là. Hein? Mais il y a une séparation, hein? Puisque c'est Laurent, le père, Laurent Luyer, lui, il s'est marié avec une Martine. Ils ont divorcé. Et puis là, voilà deux enfants. Hein? Alors la mère. Elle aussi, elle s'est mariée avec un certain Pierre, voilà. Donc les parents, on les retrouve en haut. Voilà, là c'est un défunt. Les deux traits, là, marquent un divorce. Et puis on a rajouté un certain nombre de choses. Par exemple, vous avez une sorte de patate, là. Tout ça, ça vivait dans la même maison. Hein? Vous avez des traits qui sont comme ça, en dents de scie. Mais ça marque des brouilles, hein? Voilà, qui peuvent expliquer. Alors, c'est un arbre généalogique, donc commenter. Hein, des accidents de la vie, des drames, etc. Bon, je ne vais pas entrer plus là-dedans, hein, ce n'est pas mon domaine. Bon, ça permet de réfléchir au moins sur soi-même. Hein. Bon, je ne vais pas apprendre chacun comme il veut. Bon, moi, je crois que j'ai à peu près fini. Hein. Alors... Merci. Merci.
Merci, monsieur Nemo. C'était passionnant et très clair. Donc, maintenant, on peut continuer les questions.
Hein. Voilà, sur les
Parce que je sens que la salle boue de poser beaucoup de questions. Non? Non? Vous avez tout compris?
Oui.
Oui?
Les archives de police. Ça, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. On n'en parle pas, de toute façon, hein, c'est certain. Archives de police, qu'est-ce que vous entendez par archives de police? Vous aviez des ancêtres qui étaient dans la police? Ah, vous voulez dire retrouver des documents de police? Ouh, les documents de police, alors, il y a des choses qui ont été détruites. Les mains courantes ne sont gardées qu'un an, après c'est détruit automatiquement. Hein, les procès-verbaux, c'est conservé, je ne sais plus où, ma femme le sait peut-être. Au blanc, Leblanc, David de Leblanc. Et je ne sais pas s'il y a eu, je crois qu'il y a eu des destructions. Hein. Bon, tout dépend de la période, peut-être. Mais il faut aller voir, poser la question, aller au commissariat ou à la gendarmerie et puis poser la question. Hein. Mais je sais que les mains courantes, c'est détruit au bout d'un an. Hein. Donc, si vous avez des problèmes, essayez de faire enregistrer un procès verbal, portez plainte, parce qu'autrement, vous en perdez la trace. Hein. Oui.
Attends. À une minute.
Le chef a dit.
On va laisser
Jean-Paul. Oui, juste une petite annonce. J'espère que, comme vous avez été passionné par cette conférence, vous allez maintenant vouloir poursuivre ou entamer votre généalogie. Sachez qu'il y a à Châlons un cercle généalogique de Châlons-sur-Saône, notre président est là, et que nous vous accueillons chaque premier et troisième lundi du mois, premier et troisième lundi du mois, 30 rue Saint-Georges, en attendant de déménager à Janzé dans un avenir encore incertain. 14h, vous l'avez ça sur les petits papiers que je vous ai distribués, c'est 14h18 une fois et 14h20 une autre fois pour que les gens qui travaillent puissent venir après 18h. Et vous serez toujours très bien accueillis. Par contre, on ne peut ni boire ni manger.
Bon, alors on peut reprendre les questions, là, oui.
Oui, madame. J'ai jamais rencontré ça, je peux pas. Marié sur le parvis.
Oui, alors sur un acte de mariage, marié dans l'église ou sur le parvis de l'église.
Et vous trouvez ça où? En quelle heure?
Donc le spécialiste n'a jamais rencontré ce cas de figure.
J'ai jamais trouvé ça. Je sais pas.
Oui, Denis. Oui, ouais. Une autre question.
Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a le nom d'Aragon. On ne connaît pas le nom.
Donc les enfants naturels n'étaient pas déclarables à l'état civil, c'est ce qu'il dit.
C'est pareil, j'ai jamais rencontré ça.
Les bon, enfants sont toujours naturels de toute façon.
Particulier. Je ne sais pas, je ne pourrais pas légitimer, oui, je ne sais pas trop.
C'était pour les enfants du terrain.
Les enfants du terrain, oui. C'est le même que pour nous. Non, je ne pense pas. Hein. C'est enregistré par les curés de la même façon. Hein. Les rois, on trouve les actes de naissance de nos rois, hein. À Versailles ou non. Non, pas du tout. Hein. Non, non, c'est la même chose. Hein. Bien, alors, on est tous sur un pied d'égalité, là, hein, non?
Quelques petites anecdotes personnelles, si vous le permettez, puis après, on vous lâche. Hein. Avec Denis, justement, on a eu l'occasion d'aller à Salt Lake City chez les Mormons. Oui. Les vrais, on les a vus, et donc on est rentré dans le bâtiment où il y a toute la généalogie. Il y a 1,5 milliard d'actes de naissance qui sont stockés sous différentes formes. Et on était, bien sûr, très bien accueillis. Et on nous a donné des explications presque pendant 2 heures, hein, une des dames, qui nous ont emmenés dans les archives, on a regardé dans les ordinateurs. Donc c'est très bien fait et on est très bien accueillis. Et on nous demande pas de nous convertir à la religion mormone. Donc on n'a pas été agressés. On nous a même cherché des personnes qui parlaient, pour le premier accueil, qui parlaient le français. Et ensuite, on a vu les personnes qui s'occupaient de la France, puisqu'il y a un étage par pays ou par région. Hein, dans l'Europe, c'est au 4e sous-sol. Oui, vas-y. Oui, on l'a trouvé. Voilà, voilà. Voilà, donc ça nous a un peu impressionné quand même. On sait que les Mormons existent, donc on confirme que si vous avez l'occasion de passer là, bon, je sais bien qu'on n'y passe pas tous les jours, on est très bien reçu. Hein, voilà, et c'est assez impressionnant. Oui. Oui.
Alors, bon, on n'a pas accès aux documents de moins de 75 ans. Mais avant, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème.
Avant, c'est l'histoire.
Alors, ça pose un peu... Moi, je trouve que c'est un peu abusif. C'était 100 ans, il y a 5 ou 6 ans en arrière. C'était 100 ans la période de non-communicabilité. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il y a de plus en plus de centenaires, moi, je trouve que je comprends mal cette mesure. Hein. Alors, la plupart du temps, je vous disais, les documents des archives départementales sont numérisés. Généralement, les archives départementales s'arrêtent à 100 ans. Hein, parce que sur les documents, sur les naissances, vous avez des mentions marginales. Hein, les mariages, les divorces, les adoptions, etc. Bon, ça peut être gênant de communiquer ça. Hein, je sais bien qu'on n'a pas grand-chose à cacher, mais enfin quand même... Je trouve que c'est quand même un minimum de respect pour les individus de garder un petit peu d'intimité. Hein. Mais au-delà de 75 ans, tout est consultable. Hein. La seule limite, c'est l'état de conservation des documents. Si les documents sont très fragiles, évidemment, là, on ne les communique pas. Hein. Moi, j'ai eu un jour entre les mains, on avait communiqué par erreur, c'était un document de notaire, je l'ai pris, je l'ai secoué, il tombait en poussière. J'ai demandé une photocopie. Ouh là là, oui, tout ça, ça t'est remballé.
Bien, on pourrait parler tout l'après-midi. Donc, on remercie à nouveau Monsieur Nemo. Il a des ouvrages consultables ici et achetables, je crois. Donc, si ça vous intéresse, venez les consulter. Bah, merci.
On va vous le dire. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, vous venez. Merci.